les enjeux. Et c'est ça que je voudrais essayer de donner aujourd'hui, en commençant par situer l'ensemble de l'œuvre. Parce que si on ne la situe pas dans l'histoire de la pensée, et dans un moment très particulier de l'histoire de la pensée, elle n'a, à proprement parler, aucun sens, cette œuvre. En tout cas, vous ne savez pas pourquoi il pose des questions comme celles qu'il pose, et dont vous verrez tout à l'heure qu'elles sont en vérité pleines de sens, et même tout à fait passionnantes, malgré l'aridité apparente du propos. En vérité, pour comprendre Kant, il faut l'inscrire dans la postérité de cette gigantesque révolution scientifique qui va marquer le XVIIe siècle. En gros, depuis la publication des thèses de Galilée sur les rapports de la Terre et du Soleil, ça c'est 1632, plein XVIIe siècle, la publication des Principia Mathematica de Newton, c'est Newton étant le premier grand physicien moderne, on peut dire, c'est 1687. Et puis, on peut peut-être ajouter, pas simplement par nationalisme français, mais parce que, malgré tout, c'est un livre qui, bien qu'il soit très largement faux, a quand même beaucoup compté, faux sur le plan scientifique, les principes de la philosophie de Descartes, c'est 1644. Pourquoi ? Parce que c'est quand même Descartes qui, le premier, va formuler le principe d'inertie, donc un des principes fondamentaux de la physique moderne. Avec cette révolution scientifique, le procès de Galilée, tout le monde a entendu un peu parler de ce procès de Galilée, ce procès de l'Église, ce procès de la religion contre la science, mais aussi du monde ancien, je vais l'expliquer dans un instant, contre le monde moderne. On a, avec cette émergence de la science moderne, on a une double rupture qui se met en place avec le monde ancien. On a une rupture qui se met en place avec le monde grec, c'est-à-dire avec la représentation de l'univers comme un cosmos, pour parler comme les Grecs, comme les philosophes grecs, que ce soit d'ailleurs Platon, les stoïciens, Aristote. L'idée qui domine le monde grec, c'est que l'univers tout entier, le monde physique, est ce que les Grecs appellent un cosmos, c'est-à-dire un ordre. C'est-à-dire que, par exemple, dans la philosophie stoïcienne, on se représente le monde tout entier comme s'il s'agissait, pour ainsi dire, d'un gros animal, comme s'il s'agissait d'un organisme vivant où chaque chose est comme les organes, parfaitement à sa place. Il faut peut-être y insister un peu. Dans ce monde ancien, dans ce monde de la cosmologie, où la physique prend la forme d'une cosmologie, c'est-à-dire d'une étude du cosmos, eh bien, le rapport avec l'organisme vivant est très profond. Je disais, dans la philosophie stoïcienne, c'est très parlant, très caractéristique. On y trouve l'idée, dans cette représentation du cosmos chez les stoïciens, à la fois que chaque élément du monde est comparable aux organes d'un organisme vivant, par exemple le cœur, les poumons, le foie. Il n'y a rien de mieux fait, c'est supérieur à toutes les machines humaines. Il n'y a rien de mieux fait que le cœur ou que pour transporter le sang dans les muscles, les poumons pour transporter l'oxygène, que l'œil pour voir, etc. Donc on a l'idée à la fois que chaque organe est merveilleusement bien fait dans un organisme, mais aussi l'idée que chaque organe est merveilleusement bien placé par rapport aux autres et que l'ensemble forme ce que les Grecs appellent un système. Ce qui tient ensemble de manière cohérente et harmonieuse. Et donc, dans cette philosophie grecque, cette cosmologie grecque, on a l'idée que l'univers tout entier, le monde physique, est un peu à l'image de cet organisme vivant, c'est-à-dire qu'à la fois, chaque lieu a un sens, chaque partie du monde a un sens par rapport aux autres parties du monde, tout ça forme un organisme cohérent, un système cohérent, il y a un système du monde, et dans cet univers-là, nous voyons triompher, aux yeux des anciens, c'est cela qui caractérise l'univers, le tout cosmique, l'ordre cosmique, nous voyons justement triompher l'ordre, le cosmos, en grec cosmos veut simplement dire ordre, c'est-à-dire l'harmonie des proportions, mais aussi la justice d'une certaine façon, puisque chaque chose est à sa juste place. On a donc cette idée cosmique qui va avec la révolution scientifique, c'est là d'ailleurs tout l'enjeu du procès de Galilée, à la vérité, c'est ça qui est en jeu. Cette représentation du monde comme cosmos, comme un organisme merveilleusement bien fait, eh bien cette représentation du monde, elle va purement et simplement voler en éclats avec la science moderne. Qu'est-ce que la science moderne va mettre à la place? Eh bien, ce que la science moderne va mettre à la place, c'est l'idée que l'univers, loin d'être une espèce de boule finie, un monde clos, comme dit très joliment Alexandre Coiré, un de nos grands historiens des sciences, au lieu d'être un monde clos, harmonieux, hiérarchisé comme une espèce de niche où les êtres humains doivent chercher leur place, eh bien cet univers, au lieu d'être un monde clos,